1 à 6. Mais avant ça, je lis Jean 16, 24. Jean 16, 24. Donc après, on va lire Ecclésiaste 11, 1 à 6. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà ce que le Seigneur dit dans Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc nous voyons par ce verset de Jean 16, 24 que nous manquons de joie parfois parce que nous n'avons pas demandé, on n'a pas reçu. Beaucoup s'imaginent, en fonction de certaines prédications aussi qu'on a faites et en fonction de certaines lectures bibliques, que Dieu nous attend seulement dans les sacrifices. Quand tu tiens le plus en prison, quand tu tiens le plus dans la maladie, ben là, Dieu est content. Quand tu tiens le plus dans la misère, Dieu est content, il t'a fortifié et tu as tenu. C'est vrai, mais nous tiendrons davantage encore lorsque nous recevrions ces bénédictions prévues pour nous permettre aussi de tenir. Donc ça fait partie du système de Dieu, le fait de nous donner des choses pour que ces choses-là nous aident à tenir. Un miracle, une guérison, une voiture, une famille. Donc il y a des choses qu'il a prévues pour notre parcours. Et ces choses-là donc, constituent un ensemble qui nous rendent bien, qui nous donne la joie. Donc on ne peut pas voir le Seigneur seulement comme quelqu'un qui attend de nous qu'on souffre et qu'on soit content. Ce n'est pas seulement ça. Il a prévu aussi des choses qui nous rendent heureux, qui nous rendent forts. J'ai souvent cité cet exemple par rapport à la tentation. Vis-à-vis de la tentation, Dieu peut nous donner une force surnaturelle pour être vainqueur de la tentation. Il y a une force qui te donne la supériorité vis-à-vis de la tentation. Mais il y a des jours où il ne nous donne pas cette force. Il nous évite le piège. C'est-à-dire que la personne que tu devais voir ce jour-là, à l'école ou au travail ou à la formation, qui est une occasion de chute pour toi, et tu demandais la force surnaturelle pour vaincre ce jour-là, mais la personne n'est pas là tout simplement. Tu n'as pas eu peut-être la force, mais la personne n'était pas là pour te faire tomber aussi. Ça, c'est toujours le Seigneur. Donc, il utilise plusieurs systèmes. Il n'est pas bloqué dans un système. L'essentiel, c'est que la fin, comme on dit dans la Bible, la fin monte, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, la fin, c'est quoi? C'est que tu as vaincu la tentation, même si la tentation n'a pas été là. Donc, c'est Dieu qui a évité la chose. Tu n'as pas eu peut-être de force, mais Dieu a évité la chose. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que tu n'es pas tombé. Voilà. Et c'est la même chose. C'est vrai que Dieu nous veut parfaits. Il veut qu'on soit prêt, que ce soit en prison, que ce soit dans le diminuissement, que ce soit dans la souffrance, à rester fidèle et à l'aimer. Mais il a prévu aussi des choses pour nous fortifier, comme l'Église, comme les frères et sœurs. C'est des gens que Dieu a prévus pour nous fortifier. Mais on ne peut pas dire, ah, moi, j'attends que la force directement de Dieu. Mais lui, il a prévu des gens qui vont te conseiller, qui vont te soutenir, qui vont être là avec toi. Tu ne peux pas dire, je refuse cette méthode-là, je veux autre chose. C'est pourquoi Jésus dit, mais vous ne demandez pas. Vous souffrez parfois parce que vous n'avez pas demandé. Est-ce que vous avez demandé à ce que les lois du pays nous soient favorables? Non. Maintenant, quand les lois vont être défavorables, on commence à pleurer, jeûner, faire des prières, des supplications. Alors, il nous suffisait à un moment donné de faire juste des prières de demande, de requêtes, d'intercession. Mais puisqu'on n'a pas fait, et on va voir pourquoi on ne fait pas, puisqu'on n'a pas fait ces prières-là, ben on va se retrouver à manquer de joie et à commencer à demander que Dieu nous donne la joie. Alors que lui, il a prévu de nous exaucer afin que dans l'exaucement, nous ayons la joie parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Pourquoi ne demandons pas? Donc, c'est ce que nous allons lire dans Ecclésiaste 11, 1 à 6.
Ecclésiaste, chapitre 11, versets 1 à 6. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons.
Amen, amen, amen. C'est puissant ce passage-là. Le Seigneur commence par quelque chose d'irrationnel. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est irrationnel. Nous savons tous l'effet de l'eau sur le pain. Nous connaissons. Jeter du pain dans l'eau, tu vas le retrouver comment? Tu vas le retrouver éparpillé en miettes comme des chiffons. Tu ne peux pas retrouver du pain que tu as jeté. Encore, on dirait jette une pierre, jette un morceau de fer. Mais là, c'est du pain. C'est irrationnel. C'est pas normal. Mais lui, il dit, mais tu retrouveras ça. Aujourd'hui, nous continuons toujours notre série sur la prière. Dieu veut dire, prie, tu seras exaucé. Même si ta prière paraît irrationnelle et donc non réfléchie. Prie. Moi, je t'exaucerai. Marc 11, 24 le dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Jésus lui-même dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. C'est un appel à prier bêtement. C'est-à-dire, ta prière et ton raisonnement s'opposent. Tu vas demander un immeuble, bien sûr, pour la gloire de Dieu. On n'est pas en train de demander des choses pour la gloire de l'homme, pour la gloire de Dieu. Mais aussi pour le bien-être de l'homme, puisque Dieu est bon. Il dit dans Jean 16, 24, vous n'avez pas encore demandé jusque-là. Vous n'avez pas encore demandé. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui était devant toi, c'est toi qui demanderais. C'est parce que tu ne sais pas qui est là, c'est pourquoi tu ne demandes pas. Le problème est là, c'est que nous baissons en connaissance de celui à qui nous avons affaire avec le temps. Avec les temps d'attente, des sujets de prière, avec le problème des sujets de prière non exaucés, avec le temps, nous diminuons dans notre connaissance de celui à qui on a affaire. Je vous jure que si le Seigneur nous exauçait, à la seconde, on aurait tous des fois extraordinaires, la foi extraordinaire. C'est parce qu'avec le temps, puisque les choses ne se font pas automatiquement, on finit par douter du Seigneur. On finit par relativiser les prières, diminuer dans la capacité à prier. Et Dieu cherche des gens qui sont sans boulot et qui vont lui demander une belle maison, une grande maison, une belle voiture, une grande voiture qui coûte très cher. Il est en train de chercher de tels chrétiens, non pas pour la gloire de l'homme, mais parce que Dieu est tout-puissant. Il est en train de chercher des gens qui vont dire, Seigneur, tu peux sauver, tu peux entrer dans le Parlement français, et je te le demande. Tout simplement, comme un enfant, Jésus dit, mais vous ne demandez pas parce que jusque-là, vous n'avez pas encore demandé, mais votre joie ne peut être parfaite, bien-aimé, c'est vrai. Avec les lois qui sont votées, notre joie ne peut pas être parfaite. Je me souviens d'un jour où j'étais dans ma voiture. J'étais normal, mais devant moi, il y avait un véhicule dans lequel il y avait deux hommes qui se sont fait des bisous. Alors là, ça m'a enlevé totalement la joie. Mais tout ça est dû à quoi ? Est dû au fait que peut-être nous n'avons pas suffisamment prié avant. Le Seigneur dit, votre joie peut être parfaite. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Là où nous vivons, nous les enfants de Dieu, on peut faire de ça un paradis avant le temps. Pas dans le sens où ça se transforme en paradis, mais dans le sens où Dieu agit au milieu de nous. Nous sommes exaucés et nous sommes dans la joie, malgré les difficultés. Combien de chrétiens n'ont-ils pas transformé la cellule de prison en paradis? Il y en a qui ont transformé le temps de famine en paradis. Je me souviens d'un frère norvégien, je crois, ou suédois, que Dieu avait envoyé en Corée. Il a expérimenté le miracle de la multiplication du riz. Pendant plusieurs jours, le riz se multipliait. Ce n'est pas un miracle de comme la multiplication du pain dans la Bible. C'est plus que ça, c'était plus que ça. Il a transformé la famine en abondance. Notre frère Élisée, le prophète Élisée, a transformé la famine en abondance, mais c'était une prière folle, à tel point que l'aide du roi a dit à Élisée, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, ce que tu dis là ne peut pas s'accomplir. Élisée lui a dit, ça va s'accomplir, mais c'est toi qui ne vivras pas cela. Effectivement, quand ça s'est accompli, l'homme est mort, piétiné par la foule. Parce que la prière d'Élisée était une prière irrationnelle. Pendant que les gens ont faim jusqu'au point où ils mangent des êtres humains, toi tu vas dire, demain il y aura tellement de nourriture que ça sera tellement moins cher que tout le monde pourra s'approvisionner à profusion. Le soldat dit, mais non, l'aide du roi dit, mais non, ta prière n'est pas logique. Mais ce que cet homme-là ne comprend pas, quand tu dis comme ça, ta prière n'est pas logique, tu insultes Dieu. Donc Dieu est incapable de faire ça. Le Seigneur nous a donné la responsabilité d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Et la prière fait partie de cette puissance-là pour accomplir cela. Mais Dieu veut qu'on prie réellement. Qu'on ne prie pas religieusement, où tu débites des paroles. Jésus l'a dit aussi dans Matthieu 6, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui font confiance à la multiplication des paroles. Ils ne parlent pas avec Dieu, mais ils font confiance au fait que la prière est longue et que le débit est continu. Ils parlent et ça traîne dans le temps. Ils se sentent forts puisqu'ils ont beaucoup prié, alors que Jésus dit, ce n'est pas ça. Il faut que vous soyez sérieux. Vous devez savoir d'abord, vous parlez à votre papa, notre Père qui est aux cieux. Donc, vous devez savoir ça. Mais quand tu pries comme si Dieu était un étranger pour toi, mais un patron, ou bien juste un patron pour toi, tu ne peux pas prier solidement. Mais quand tu sais qu'il est ton Père, tu n'as pas peur. Je vois mes enfants, parfois, ils ne frappent même pas la porte, ils entrent dans la chambre, parce que c'est leur papa. Mais nous, quand il s'agit de Dieu, ça devient tout de suite compliqué. quelle forme de prière je dois faire? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois faire 5 jours de prière? Vous savez, quand vous commencez à réfléchir comme ça, vous êtes déjà à côté. Vous avez perdu la simplicité des enfants de Dieu. L'Esprit Saint nous dira comment prier. Quand nous, on commence à réfléchir, pour tel problème, quelle forme de prière je dois faire? C'est comme si on attend que la forme de prière résolve le problème. Là, c'est un problème. Là, ce n'est pas bon. Mais si on se dit, en tout cas, moi, je vais frapper à la porte du Seigneur à travers un jeûne, voilà, qu'il me guide dans la forme de jeûne que je vais faire, mais moi, je vais frapper à sa porte, il faut que je jeûne. Donc, là, c'est la motivation, ce n'est pas la même chose. Mais lorsqu'on commence à comparer notre problème à la forme de prière, on est dans les méthodes, on est dans la religion, on a un problème, on n'a pas compris que Dieu est tout-puissant. La puissance de Dieu se manifestera à travers des prières irrationnelles. Que nous dit Éphésiens 3, 20 ? Il agit au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. C'est trop grand. Quand l'action de Dieu dépasse l'imagination, vous imaginez les capacités d'imagination d'un être humain. Un enfant de 5 ans peut s'imaginer pilote d'avion. Hein? Maintenant, Dieu agit plus que ça. Donc, Dieu dépasse même ton imagination. Donc, avec ça, est-ce qu'on peut compter le nombre de choses qu'on rate avec Dieu? Parce que tout simplement, on n'a pas demandé. Il y a des gens, avant d'acheter la voiture, ils attendent d'avoir 12 000 euros dans le compte. Il leur manque 1 500, c'est là qu'ils commencent à prier. Bon Seigneur, tu as vu que je... Il a les 12 000. Donc, mais même quand il prie pour les 1 500, il a déjà calculé, bon, si Dieu ne donne pas dans 5 jours, je vais parler à un tel, il peut me prêter 400. Dans sa prière, il est en train de réfléchir déjà, bon, après j'appellerai papa, lui il peut me donner 700. Donc, prière nulle. Les vraies prières, c'est que tu n'as rien. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de marcher à pied. Maintenant, il me faut peut-être, bon, BMW série 3. Mais oui, prière irrationnelle, mais en fonction du Dieu Tout-Puissant. Vous imaginez le nombre de choses qu'on rate. C'est ce qui fait que notre joie n'est pas parfaite. Tu es tout le temps un boudou. Mais parce que, oh ma femme, mais oui, mais tu ne pries pas. C'est ta faute. Mais mon mari, mais tu ne pries pas. Parce que tu l'as déjà condamné. Tu l'as mis dans un coin. Il est mauvais. Elle est mauvaise. À partir de là, tu pries pour t'en sortir toi-même. Il y en a qui finiront par prier pour que l'autre meure. Parce que tu veux t'en sortir. Dieu dit, c'est parce que tu ne demandes pas. Parce que tu trouves que c'est très difficile que Dieu change une telle personne. Il y en a qui méditent beaucoup sur la méchanceté des humains. Il est là à méditer. Ah oh ! Il a fait ce... Mais non, quand même. Au lieu de méditer sur la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu, 1 Jean 3 nous dit, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il y en a qui sont là à se condamner tout seul. Ah là, je suis parti trop loin. On vient, on lui explique la parole. Ah, mais je suis parti trop loin. Mais frère, tu ne peux pas te sauver tout seul. Le Seigneur nous sauve gratuitement. Demande son aide. Ah, mais non, mais je suis parti trop loin. Donc, il va méditer sur lui-même jusqu'à se fatiguer. Or, il suffit de dire, Seigneur, aide-moi. C'est 2 mots. Aide-moi. J'ai souvent envoyé à certains d'entre nous une partie de Judas Ben-Hur. Vous savez, c'est un vieux film avec Charlton Heston. Judas Ben-Hur, à un moment, Judas Ben-Hur tombe d'épuisement parce qu'on lui a refusé de l'eau à boire. C'est en ce moment-là qu'il crie, « Lord, help me. Seigneur, aide-moi. Et là, on ne montre pas le visage du monsieur. Bien-aimé, je me souviens, j'avais regardé ça, j'étais petit. On n'a pas montré le visage du monsieur. Mais sans qu'on montre le visage, tu sais que c'est Jésus. On montre seulement une ombre qui avance. Et la personne prend l'eau et donne à Judas Ben. Il boit. Et il se lève. Le soldat qui refusait de donner l'eau, il vient pour frapper. Quand ses yeux regardent le monsieur, lui-même il recule. Il dit, quand Jésus remplit un cœur, quand Jésus vient t'aider, tu débordes de bonheur. Quand Judas se lève, on le fouette, mais il ne sent plus la douleur en regardant le monsieur qui lui a donné de l'eau. C'est Jésus de Nazareth. Il a dit, Lord, help me. Seigneur, aide-moi. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à dire, Seigneur, aide-moi. Parce qu'il s'est condamné lui-même. Parce qu'il réfléchit trop. Au lieu de prier simplement. Tout simplement, on ne veut pas ce qui est simple. Demandez, il vous sera donné et votre joie sera parfaite. Jette ton pain sur la surface des eaux. Faites des prières anormales. Faites des prières. C'est pourquoi Jésus dit, Fils de David, d'accord, Jésus, amenez-le. Tu veux quoi, monsieur? Pourquoi Jésus fait ça? Il ne suffit pas de dire fils de David, hein? Mais il faut croire qu'il peut te rendre, il peut te donner la vue. Il y a des gens qui prient, qui ne prient même pas en disant, mais Dieu voit bien que je souffre. Et alors? Dieu ne voit pas comment mes enfants même manquaient de quoi manger. Et alors, qu'est-ce qui t'empêche de demander la nourriture? On est là à se fâcher au lieu de juste dire, Seigneur, j'ai besoin de manger aujourd'hui. On est en train de condamner Dieu, mais est-ce qu'il ne voit pas? Il voit, et toi, tu n'as pas de bouche. Il nous demande, il dit, demandez. Il dit même, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Alors, je m'imagine tout ce qu'on a raté depuis le temps qu'on ne demande pas. Je m'imagine, quand je dis tout ce qu'on a raté, ce n'est pas individuellement, c'est aussi en tant que groupe, en tant que chrétien du monde entier. Tout ce qu'on a raté. Et dans les prières, il y a même 1 Timothée 2, 1 à 2 qui dit, il faut prier même pour les rois, pour ceux qui nous dirigent, afin qu'ils prennent des décisions qui nous soient favorables. On s'imagine tout ce qu'on n'a pas, on a raté en négligeant de prier, mais c'est grave. Parce que notre Dieu, c'est devenu notre intelligence. On a pris Dieu, on a mis dans notre intelligence, alors que c'était notre intelligence qui devait être changée par Dieu. C'est ce qui est écrit dans Romains 12, 1 à 2, que votre intelligence soit renouvelée. Nous, on a pris Dieu, on l'a limité dans notre intelligence. C'est pourquoi on s'imagine mal qu'un morceau de pain dans l'eau puisse revenir sec. C'est possible. Moi, j'ai mangé du pain sec, mais qui est entretenu dans de la vapeur. Si déjà physiquement ça existe, les Chinois en font. Quand j'étais parti aux États-Unis, c'est les Chinois font du pain comme ça, du pain que tu sors de l'eau. Mais il est sec. C'est déjà possible physiquement. Déjà, ça prouve que ce verset est extraordinaire. Parce que dans de l'eau, tu sors du pain sec. Physiquement, ça existe déjà. Mais à combien plus forte raison spirituellement? Parce que c'est dans la vapeur, ils font ça. Il y a la vapeur, c'est de l'eau. Mais quand tu sors la boule de pain, c'est sec. Et spirituellement, Dieu encore peut faire plus. Mais on est des paresseux, de polémiqueurs, des raisonneurs, on ne veut juste pas parler et que Dieu règle le problème, mais on préfère lutter par nous-mêmes, discuter, polémiquer, se compliquer les choses. Il dit, jette ton pain. Il dit, Matthieu 11, 28 à 30, déchargez-vous, jette ton pain, prie seulement, prends tes fardeaux et tu donnes à Jésus, c'est tout. Mais on tourne en rond, juste pour parler, juste. On passe notre temps à condamner les uns les autres, à condamner l'univers, à être journaliste, au lieu d'être acteur. Par la prière peut tout changer. C'est tout. Nous continuons, Ecclésiaste, verset 2.
Ecclésiaste 11, verset 2.
Oui.
Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre.
Voilà, il dit, donne-en une part à 7 et à 8, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'économiser avec Dieu. Lâche-toi. Lâche-toi, prie pour ceci, prie pour cela. Prie pour autre chose encore. Vas-y, parce que ce passage peut s'appliquer dans beaucoup de choses. Ça peut s'appliquer sur le fait que tu donnes aussi des choses aux gens. Mais là, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet, c'est la prière. Nous sommes toujours dans la prière. Parce que Dieu veut nous responsabiliser. Les temps sont difficiles. Bientôt, il va y avoir des... il y a des événements qui se déroulent, mais on est distrait. Là, les États-Unis commencent à être isolés par le reste de l'humanité. Donc, le monde va aller très, très mal avec le temps. Donc, c'est le moment que les chrétiens prennent leur responsabilité de gérer le monde par la prière. S'ils ne le font pas, ils connaîtront des souffrances qui risquent de faire perdre la foi à certaines personnes. Il faut que du temps que nous sommes vivants, notre monde ne soit pas trop difficile pour nous. Parce que dans la Bible, dans Matthieu 24, c'est dit que le Seigneur arrêtera les souffrances parce que les souffrances risquent de faire perdre la foi à beaucoup. C'est une réalité. Donc nous devons faire que pendant que nous sommes vivants, notre monde ne nous dépasse pas trop en souffrance. Nous sommes des humains, nous pouvons tomber. Que ça ne nous dépasse pas trop en péché, en mal. Matthieu 24 le dit, si ces temps-là ne sont pas arrêtés, même les chrétiens vont être perdus. Donc, le Seigneur veut nous réveiller par rapport à notre responsabilité côté prière. Vas-y, prie pour A, prie pour B, même 7, 8 sujets. Mais sois sérieux quand tu pries. Quand tu dis, tu parles à Dieu. Ce n'est pas une question de méthode. Que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, que tu sois dans ta chambre, que tu n'y sois pas. C'est pourquoi notre frère Paul dit quoi ? Priez sans cesse. L'essentiel, c'est que tu dises les choses avec sérieux. Comme Hébreux 11:6 dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc tu parles à quelqu'un qui existe et tu t'attends à ce qu'il t'exauce. Tu ne dis pas parce que dans l'église on demande qu'on prie pour telle chose. Non, parce que tu crois que tu vas recevoir la chose. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas que tu pries parce qu'il faut prier, mais parce que tu vas recevoir la chose. Normalement, après la prière, on devrait être joyeux. Puisque c'est comme si tu as reçu ce que tu as demandé. Beaucoup, après la prière, sont encore tristes. Mais dans ce cas, il faut prier encore. C'est ce que le Seigneur dit en Philippiens 4. Donc, 6 à 7, il faut, quand nous prions, la paix de Christ, qui surpasse toute connaissance, va garder nos... La paix de Dieu va garder nos cœurs en Jésus. Ça surpasse toute connaissance. Donc, ça dépasse ce qui est rationnel, ce qui est... explicable par l'intelligence humaine. La puissance de Dieu dépasse tout cela. Mais nous pensons que nous avons affaire à un Dieu qui est au niveau de notre intelligence. Non, Dieu est au-dessus de tout ça. Il est plus grand, tout puissant. Il peut tout faire. Elle prie pour ceci, prie pour cela. Continue. Il dit, même les nuages, verset 3, sont pleins de pluie. Ils la répandent sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que plus le nuage gonfle, ça ne va pas continuer à rester nuage. À un moment donné, ça fait descendre la bénédiction, la pluie. Tes prières ne vont pas rester que dans le nuage. À un moment donné, ça va faire descendre la pluie. De la même manière que tu fais confiance que les nuages, en se remplissant, finissent par descendre la pluie, fais confiance aux prières. Je disais aux bien-aimés, quand on était en Suisse, j'ai dit, ben vous savez, on est à quatre là, on est en train de prier à Berne, la capitale, sur le siège de l'État fédéral. Mais le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne le font pas trop, ce genre de prière, parce qu'ils se disent, on est à quatre, et puis, bon, on est là, on va passer, on s'en va, on va prier 10 minutes, ça va faire quoi? Mais c'est justement comme ça, à cause de ça, que le Seigneur n'agit pas. Puisque quand on a ces raisonnements-là, on finit par dire, on ne va pas prier, on va attendre qu'on soit 1000, qu'on soit 500, qu'on fasse une grande marche pour Jésus là-bas à Berne, et c'est ça, on va conscientiser d'autres personnes. Mais tout ce temps-là qu'on cherche à conscientiser d'autres personnes, tout ce temps-là qu'on met pour attendre le nombre, pour attendre le grand jour de jeûne pour faire ceci, cela, la prière n'est pas faite pendant tout ce temps-là. Or Dieu dit, ben non, remplis le nuage, remplis. Et puis, quand tu as prié comme ça, un autre chrétien viendra prier aussi. Et un autre chrétien vient encore prier et les nuages se remplissent. Et un jour, la pluie va tomber sur le pays. Le diable est malin. Il te dit, mais oui, mais ta prière, ça va faire quoi? En plus, hier, tu t'es fâché. Ça va faire quoi ta prière? À l'église, on ne te considère même pas. Ta prière, ça va faire quoi? Et toi aussi, tu écoutes ça, ben c'est vrai. Allez. Le fait de l'amour à la télé, puisque de toute façon, mes prières ne seront pas entendues. Il a réussi son coup. Mais si tu comprenais que tu es un enfant de Dieu, Dieu c'est ton papa, tu vas prier tout simplement. Tu vas dire, Père, regarde la situation. Comme le nuage, tu remplis le nuage. Ça te fait mal de voir un infirme. Tu dis, Père, regarde ce monsieur-là qui mendie. Visite-le. Tu perds quoi en disant ça? Rien du tout. Mais ton problème, c'est quoi? Quand tu te dis, même si je dis ça, ça va changer, quoi? Le problème, c'est que tu as perdu la foi en Dieu. Tu as perdu la connaissance de Dieu. Tu ne sais pas que tu as affaire à celui qui est tout-puissant. Tu ne sais pas que tu as affaire à celui qui est amour. Donc sa définition, sa substance, c'est l'amour. Tu oublies que tu as affaire au papa de Jésus qui fait tout lorsqu'on cite le nom de son fils. Donc notre Père qui est aux cieux, dès qu'on lui cite le nom de son fils, il fait la chose. Parce que son fils l'a satisfait complètement. Son fils a porté par son sacrifice, le péché de tous. À cause de ça, il aime son fils. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, c'est pourquoi Jésus, fièrement dans Jean 14, il nous dit, demandez à mon nom, il fera. Ne cherchez pas de circonvolutions, de circonlocutions. Demandez à mon nom. Ne cherchez pas de détours. Mais nous, on est là à chercher des détours. Au lieu de dire tout simplement, Seigneur, visite cet homme. Notre problème, c'est que, même moi, je me suis plaint il y a 2 jours. J'ai dit, Seigneur, ou bien c'était hier, ou il y a 2 jours. J'ai dit, mais Seigneur, mais nous, quand on lit la Bible, on voit que toi, quand tu pries pour quelque chose, ça se fait. Mais nous, parfois, on prie, ça fait 5 jours, 1000 jours parfois. Il y a une injustice, non? Ben, j'ai attendu un peu, la réponse est venue. C'est que le Seigneur demandait les choses dans le temps de son Père, avec perfection. C'est-à-dire, il était tellement connecté à son Père, il demandait exactement au bon moment la chose. C'est pourquoi ça se faisait en ce moment-là, parce que c'est ça qu'il fallait faire. Deuxième chose, le Seigneur était parfait. Il était comme Adam. Adam a été créé bon. Le Seigneur aussi a été créé bon. Et donc, en lui n'ayant pas d'erreur, il pouvait gérer la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 3, c'est écrit, l'Esprit lui a été donné sans mesure. Parce qu'il pouvait gérer les conséquences de la gloire de Dieu. Mais je vous dis, bien-aimés, parmi nous, on voit aujourd'hui, tous les visages sont mignons, tranquilles. Mais que les gens parmi nous commencent à guérir les aveugles, commencent à prier. Quelqu'un qui a faim, tu pries pour lui. Après 30 minutes, on vient lui donner le KFC, 4 seaux. Mais tu vas encore dans tel endroit, un malade mourant, tu pries, il guérit. Vous allez voir comment on va se bagarrer là pour chercher qui est le plus fort, qui est ce... Dieu sait que s'il commence à nous exaucer comme ça, tu pries, ça se fait. Tu pries, ça se fait. On ne pourra pas gérer ça. Il va y avoir des gens qui vont croire qu'ils mesurent 5 mètres. Parce qu'il a prié là-bas, ça a marché, il a prié là-bas. Et quand on va lui dire, mes frères, oh non, nous tous, c'est Jésus. Vous savez, dans 1 Corinthiens 3, il y en a qui disent, moi je suis d'Apollos, de Pierre, il y en a qui disent, moi je suis de Jésus, donc je n'ai pas besoin de quelqu'un. Parce que quand on lit ça, quand on dit, moi je suis de Jésus, ça donne l'impression, oui, ça c'est une bonne position. Mais non, qu'est-ce qui est caché quand la personne a dit dans 1 Corinthiens que moi je suis de Jésus? Ça veut dire que je n'ai besoin ni d'Apollos, ni de Pierre. Ce n'est pas mon problème. Oh, c'est faux. Dieu a établi les apôtres pour les gens. Voilà. Mais on va voir les gens. C'est Jésus. Oui, d'accord, c'est Jésus. Mais il y a un ordre. Tout le monde n'est pas chef. Tout le monde n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas ceci. Donc, il faudrait écouter. Tout le monde n'est pas parent. Et donc, c'est pourquoi le Seigneur se sert aussi de la prière pour nous humilier, pour nous faire attendre, afin de travailler aussi notre caractère. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas donner. Il nous connaît. Il sait que certaines choses peuvent nous être préjudiciables. Donc, parfois, ça traîne ainsi à cause de notre imperfection. Non pas que le Seigneur ne va pas agir, mais il veut que la bénédiction ne soit pas un piège pour nous. Et il prépare toutes choses afin que ça soit une vraie bénédiction pour nous. Il dit, les nuages se remplissent, bien-aimés, prions. Les nuages se remplissent et ça fait descendre la pluie. Que personne ne te fasse reculer. Il dit au verset 4, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. C'est ça, il dit, mais tous ceux qui se laissent impressionner par les difficultés des problèmes ne prieront jamais. Tous ceux qui se laissent impressionner par les dimensions, le niveau de problème, ne prieront jamais. Ils seront découragés avant même de prier. Or, c'est juste ça que Dieu veut, que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Mais en voyant la dimension du problème, beaucoup ne vont même pas prier. C'est ça qui est malheureux. Maintenant, il nous dit ceci au verset 5. Le diacre frère va lire ça. Verset 5.
Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout.
Amen. Au fait, c'est ça le verset principal d'aujourd'hui. Il dit, tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre de la femme. Parce que comme le ventre de la femme, c'est un peu plus difficile, mais prenons l'œuf de poule ou de crocodile, tout ce que vous voulez. On peut faire une omelette avec ça. Est-ce que quand tu fais l'omelette, tu vois, est-ce qu'il y a du dur? Parce que l'omelette, même les gens qui n'ont pas de dents, ils peuvent manger ça. Parce qu'il n'y a aucune... C'est pas dur, c'est liquide. Et même quand tu cuisines ça, ça reste mou. Je dis, mais comment ça devient des os après? On voit un être qui marche. C'est ton omelette qui marche après. Bien-aimé. Mais maintenant, le serviteur qui a écrit nous dit, mais comme tu ne... Est-ce que tu peux comprendre ça? Que ton œuf qui peut servir d'omelette, un jour ça va marcher avec des os durs. est-ce que tu peux comprendre ça? Dis, mais puisque tu ne peux pas comprendre ça, ne cherche pas à comprendre les circuits d'action de Dieu. Dieu, il a ses circuits d'action. Et il n'explique pas ça forcément aux humains. Il veut que tu te contentes du résultat. Tu as demandé, attends le résultat. Ne cherche pas à comprendre le circuit d'action. C'est en voulant comprendre le circuit d'action de Dieu qu'on ne prie même pas, parce qu'on trouve que comment il va faire. Il va faire comment? Il va faire comment? Et en réfléchissant beaucoup, on ne prie même plus. Or, quelqu'un qui est sûr, comme David, que Dieu agira, il ne sait pas comment, parce que David, il ne savait pas comment vaincre Goliath. Comment on le sait? Il a pris 5 pierres, 5 cailloux, mais il n'en a utilisé qu'un seul. S'il savait comment vaincre, qu'on lui avait dit par révélation, ça sera par un caillou, il aurait pris un seul. Mais il en a pris 5. Donc, il ne savait pas trop. Il a pris l'arme qu'il a l'habitude d'utiliser, la fronde. Il avait l'habitude de l'utiliser, il a pris ça. Mais il savait une chose, que le résultat lui sera favorable. C'est tout ce qu'il savait. Ne cherchons pas à comprendre le circuit d'action de Dieu. Demandons. Notre problème, c'est le gâteau ou bien comment c'est cuisiné. Toi, tu veux manger ou bien tu veux quoi? Demande. Il dit, comme tu ne sais pas, conséquence, frère, le verset 6, conséquence.
Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela.
Amen.
Ou si l'un et l'autre sont également bons.
Voilà. Puisque tu ne sais pas, est-ce que la prière du matin, c'est ça que Dieu va entendre et c'est ça qu'il va utiliser? Est-ce que la prière du soir, est-ce que celle de midi, est-ce que au culte, c'est le culte que là où Dieu va nous écouter? Tu ne sais pas tout ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu tapes. Tu tapes partout, c'est tout. Tu pries le matin, tu viens à la réunion. Puisque tu ne sais pas à quel moment ça va faire mouche. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas les circuits d'action du Seigneur. C'est pourquoi, quand on dit prière, tu es là. Mais à chaque fois, en croyant que la prière que tu fais, c'est celle qui va agir. Puisqu'il dit, mais arrête de réfléchir, toi prie. Arrête de penser que c'est à telle heure, c'est à telle heure. C'est à tout moment, prie. C'est pourquoi Paul dit, priez sans cesse. Comme nous ne connaissons pas les circuits d'action de Dieu, prions, c'est tout. Le diable va te dire, mais comment ça va se faire? Vous savez, je vous ai souvent raconté cette anecdote. Autrefois, les gens, dans les siècles précédents, n'avaient pas la liberté de prier comme nous, on parle à notre Père directement. Ils avaient été mal enseignés et ils faisaient toujours leur prière par écrit. Ils avaient, voilà, Dieu était le chef loin, mais quand même notre Dieu, on pouvait le prier, mais ils écrivaient leur prière. Une dame affamée, une veuve, avec son fils, à la maison, affamée, elle s'est dit, je vais faire comment? Elle s'est dit, mais tiens, mais je vais prier Dieu. Elle écrit sa prière sur un papier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène ça chez le marchand de produits alimentaires. Et quand arrive son tour, elle donne, on dit, tu veux quoi? Je veux des choses à manger. Voilà ce que j'ai comme argent. En fonction de ça. Et le monsieur prend le papier, il lit. Mais c'est une prière. Elle dit, oui, c'est ça que j'ai seulement. Le monsieur dit, mais qu'est-ce que ça a comme poids, cette prière? On va vérifier ça. Et comme à l'époque, on vendait les choses par kilo, sur une balance, on mettait les poids d'un côté et les produits de l'autre côté. Le monsieur a pris le papier de prière, il l'a mis sur un plateau Et il commençait maintenant, il a dit, on va voir si ça va avoir le poids des choses que tu demandes. Nous savons tous qu'un papier ne pèse pas du tout, pratiquement rien. Eh bien, le monsieur a mis des légumes. De l'autre côté, c'est le papier qui était le plus lourd. Il a dit, ah bon ? Il a rajouté, le papier était toujours le plus lourd. C'est-à-dire que la balance penchait toujours du côté du papier. Mais comment est-ce possible ? Il a rajouté jusqu'à ce qu'il n'avait plus de place dans le panier de produits alimentaires. Le papier était toujours le plus lourd. Il a dit, femme, ben, vous avez gagné, prenez tout. Elle est partie avec beaucoup de nourriture à la maison. Mais à vrai dire, il y a eu une panne du système qui s'était coincée. Mais ça s'est coincé par le papier. Par le papier. Le papier a coincé le système. Même quand nous on dit qu'il y a eu une panne, c'est quelque part on veut toujours trouver des explications. En réalité, le papier a été plus lourd que toute cette nourriture. Donc une prière est plus lourde que n'importe quelle situation, n'importe quelle montagne. La prière dépasse. Mais ayons le courage de prier. Ayons la conscience de prier. Ayons, comment dire, l'intelligence de prier. Parce que tu sais que ça va te rapporter et que ce n'est pas beaucoup. On te demande de parler seulement. On te demande de parler. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à dire, Seigneur, aide-moi. Mais on se dit, mais est-ce qu'avec quatre mots, le Seigneur va me comprendre? Mais commence par quatre mots. Le reste viendra. Exprime ce qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas les méthodes qui comptent. C'est ce que tu exprimes, c'est ta foi. Tu as affaire à qui? C'est ça que tu dois exprimer dans ton cœur. C'est ce que le Seigneur attend. Le Seigneur n'attend pas que... Ce n'est pas les mots qui font que Dieu agisse. C'est le cœur, c'est ton expression qui sort avec foi et qui te dit, mais Christ a tout accompli à la croix. Il y a des chants. Quand tu chantes, Jésus est le rocher de ma vie. Automatiquement, c'est une prière pour toi. Il est le rocher. Il n'y a rien à craindre. Il porte tout. Ne regarde pas à tout ce que les gens vont faire comme moquerie concernant tes prières. Même des chrétiens vont dire, ah, ben, ce que tu demandes là quand même, c'est trop grand. Mais qu'est-ce qui est plus grand que Dieu ? Dieu dit, mais tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme. Les os, les poumons. Là, on ne parle que des os. Mais il n'y a pas que les os. Les poumons, les yeux, tout ça qui se distingue après. Mais tu ne sais, comme tu ne sais pas non plus comment Dieu agit dans le monde. Contente-toi de prier. Et crois que Dieu te donnera la chose. C'est ce qu'il dit dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Mais nous ne prions pas. Nous prions en fonction de ce que notre intelligence accepte comme prière. Nous ne prions pas pour tout ce qui dépasse notre intelligence. Et nous réduisons ainsi Dieu à la taille d'un homme. La vraie prière, c'est dépasser ce qui est rationnel. Parce qu'il agit au-delà de ce que nous pensons. C'est ça la vraie prière. On ne sait pas comment il va faire, mais il fera passer un homme à travers un trou de souris. Parce qu'il est Dieu. Il est tout puissant. Et tu pries comme ça. Un jour, Dieu dit à Ézéchiel, au verset 37, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? C'était des os desséchés depuis longtemps. Mais Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel a jeté l'éponge. Mais soyons au moins honnêtes, disons comme Ézéchiel, ah là, Seigneur, c'est trop pour moi, c'est toi qui le sais. Disons au Seigneur, j'ai une foi de canard boiteux, mais je veux avoir la vraie foi. Soyons honnêtes. Le Seigneur dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements... Le Seigneur n'a pas voulu une prière inutile. Donc, il n'a pas voulu qu'Ézéchiel vienne prier avec peu de foi. Il voulait que la prière d'Ézéchiel soit remplie de foi. C'est pourquoi il agite d'abord. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Dieu, moi j'aime le Seigneur, il est fier de lui-même. Il dit, mais est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit, ah, mais c'est toi qui le sais. Dis, prophétise à ces ossements. Ossements, rassemblez-vous. Les ossements se sont rassemblés. Que la vie commence. La chair est venue sur les os et c'est devenu des humains. Voilà le grand message du Seigneur. Pour aujourd'hui, les ossements peuvent revivre par la puissance de Dieu. Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Arrêtons d'avoir une joie imparfaite. Dieu veut une joie parfaite. Ça passera par les exaucements. Ça passera par le fait que nous changeons notre environnement. Les temps sont difficiles. Nous avons besoin de prières qui changent notre environnement, qui nous mettent à l'aise, qui permettent des exaucements, qui font qu'on est aussi consolé. C'est bien d'endurer des souffrances pour le Seigneur, mais c'est mieux d'avoir foi en Dieu. C'est mieux d'avoir foi en Dieu. Parce que quand on a foi en lui, on peut endurer des souffrances et en plus expérimenter sa gloire. Mais si juste on est prêt à endurer des souffrances, on ne sait pas jusqu'à quel point on va tenir. Beaucoup ont renié le Seigneur dans la souffrance. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas compris que leur foi pouvait aussi changer beaucoup de choses. Notre foi peut changer beaucoup de choses. Mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on discute avec le Seigneur. Il le dit dans Ésaïe 43, 26. Discutez avec moi. Plaidons ensemble. Dites, parlez. Et je vous exaucerai. Jésus dit, vous n'avez pas demandé. Bien-aimés, ne regardons pas aux méthodes. Quelqu'un va se moquer de ta prière, ce n'est pas grave. Prie. Quelqu'un va dire, je me souviens à l'époque, dans la région parisienne, c'était à celui qui était le plus maigre. Quand tu grossis, ah frère, tu ne jeûnes plus. Ce n'est pas grave. Même quand on est gros, Dieu nous exauce. Amen. Voilà. Dieu ne fait pas de différence. Comme quand tu fais des régimes, c'est là qu'il va t'écouter. Non. Il t'écoute en fonction du cœur. Quand tu reconnais qu'il est tout puissant. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel a dit, ah, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui le sais. Mais en donnant cette réponse, la foi d'Ézéchiel augmentait en même temps. Il avouait sa faiblesse, mais en même temps, sa foi augmentait dans cette discussion avec Dieu. C'est pourquoi quand Dieu lui dit, prophétise maintenant, que ses ossements reprennent vie, Ézéchiel a parlé avec foi. La discussion lui a donné la foi. Et le Seigneur nous dit la même chose aujourd'hui. Est-ce que ce que tu penses là impossible, est-ce que ça peut revivre? Sois honnête pour dire, Seigneur, j'ai du mal à croire. Aide-moi. Comme dans le passage biblique de la délivrance d'un enfant, le Seigneur Jésus a dit au papa, est-ce que tu crois que je peux le guérir? Le papa a dit, je crois, mais viens au secours de ma foi. Et il a été honnête pour dire, je crois, Seigneur, en toi d'une manière globale, mais ce cas est trop grave. Il a fait échouer des gens pendant des années. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va être réglé. Bon, mais je crois quand même, aide-moi à croire vraiment. On peut dire au Seigneur, moi, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, pardon parce que j'ai raté beaucoup de choses. Parce que je n'ai pas demandé certaines choses. Parce que mon intelligence a été comme un voile qui m'a empêché de demander certaines choses. Et il y en a qu'on a demandé pour la forme. Alors, Dieu Tout-Puissant, on demande quand même, mais on n'est pas trop convaincu. Que le Seigneur nous amène vraiment à entrer dans notre responsabilité. C'est nous qui allons changer les choses. Il nous a donné cette responsabilité. Nourrissez-les vous-même. Nourrissez-les vous-même. Donc cela est possible. 5 pains et 2 poissons. Cela est possible. Elle dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Demandez en mon nom. À la croix, il a crié. Tout est accompli. Tout est accompli. Demandons au nom de Jésus. Au lieu de tourner en rond. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons par la foi, nous prions par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses, par la foi, oh, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vain. Ô Seigneur, nous voulons marcher par la foi, gérer cette humanité par la foi, à travers la prière. Ô Seigneur, comme beaucoup de gens ont produit des réveils dans le monde entier, parce qu'ils ont cru en la force de la prière, ils ont prié jusqu'à ce qu'il y ait exaucement, parce qu'ils considéraient que tu existais, tu étais Dieu, Seigneur. Nous voulons prier jusqu'à ce que nous voyons les choses, parce que tu es fidèle et tu es tout-puissant, Seigneur. Aide-nous à prier au lieu de réfléchir, de raisonner, de polémiquer dans notre tête, Seigneur, que nous puissions prier. Oh, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prier afin que les chrétiens du monde entier se lèvent dans ces temps difficiles pour rendre le pays où ils habitent, rendre la zone, la région où ils habitent, rendre cela habitable, comme c'est dit dans Ésaïe 58. On peut rendre le pays habitable, on peut rendre le quartier habitable. Il suffit qu'on prie, Seigneur. On peut rendre notre maison habitable. Il suffit qu'on prie, Seigneur. On peut vaincre toutes les montagnes devant nous. Il suffit qu'on prie, Seigneur. On peut demander de l'aide lorsque nous sommes dépassés. Il suffit qu'on dise, Seigneur, aide-moi de tout notre cœur. Au lieu de chercher à accuser, à condamner, Seigneur. Que les chrétiens se lèvent dans la prière. Règle les choses dans la prière. Que les chrétiens prient à tout moment. Le matin, le soir, à midi. Qu'ils viennent dans les réunions prier avec les frères et sœurs. Car là où deux ou trois sont réunis, tu es là, Seigneur. À chaque fois qu'ils lisent la parole, qu'ils transforment les versets bibliques en prière, Seigneur. À chaque fois qu'ils chantent, qu'ils transforment les chansons en prière. Quand ils chantent, qu'ils pensent à des problèmes, qu'ils pensent à des choses, et qu'ils règlent ça dans les champs de puissance, dans les champs où on confesse que tu es Dieu. Parce que ton nom a été placé au-dessus de tout nom, de sorte qu'au nom de Jésus, il n'y ait pas d'autre nom qui soit debout, que tous ces noms-là fléchissent les genoux. Et à travers les chants, nous allons faire fléchir les genoux au faux nom, le nom de maladie, le nom de difficulté, le nom d'addiction, le nom de démons vont fléchir les genoux. Oh Seigneur. Alléluia. Comme c'est écrit, nous avons vaincu par le sang de l'agneau, Seigneur.